Comme chaque mercredi à 18h, on vient vous parler de la Palestine et des activités qu'on organise dans la région pour défendre les droits des Palestiniens lors de cette émission Une heure en Palestine. Elle est présentée par plusieurs associations comme Palestine 13 et BDS Provence. Aujourd'hui, c'est un programme 100% culturel, mais aussi culinaire que je vous propose. C'est à l'occasion de la deuxième édition du festival Ciné-Palestine à Marseille, autour d'un focus sur cette terre, qui se tient déjà, entre le 12 et le 18 juin 2023 à Marseille, dans plusieurs endroits, comme le Vidéodrome et au Gyptis, et aussi à Mussin. Vidéodrome, c'est le jeudi 15 et vendredi 16, Gyptis, samedi 17 et dimanche 18. Avec en prime un petit stand de produits palestiniens présenté par Fipsouk, route de Zaatar, vendredi 16 au Vidéodrome et dimanche 18 au Gyptis. Pour avoir le programme de Festival Palestine, vous pouvez le voir sur le site www.festivalpalestine.paris Paris, ou encore en cherchant notre site internet et notre page Facebook sur site internet, tapez Palestine 13, même chose, Palestine 13 sur Facebook, vous aurez le programme un jour. Par exemple, jeudi 15 juin, au Vidéodrome 2 à Marseille à 20h30, il y aura donc la présentation de Human Art de Monica Moer. C'est un documentaire qui a été filmé en 2019 de 15 minutes. Human Art dresse un portrait de la fragmentation de la terre et de l'expérience de l'exode forcé du peuple palestinien à travers ces séquences rares, récemment restaurées et tournées en Galilée, par exemple, à Nazareth, à Deir Hana et à Sakhnin. À l'occasion du 5e anniversaire de la Journée de la Terre en mars 1981. Donc c'est le jeudi 15 juin, Vidéodrome 2, à 20h30. Ou encore, le film La mémoire fertile de Michel Khelaifé, au Gyptis, le dimanche 18 juin 2023 à 18h. Il a été réalisé en 1978. La mémoire fertile est un portrait de deux femmes palestiniennes, Farah Hatoum, veuve, qui vit à Nazareth, et Sahar Khalife, jeune romancière qui vit à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Michel Khelaifé rend compte du quotidien en privilégiant dans ce documentaire le témoignage direct de la vie sous occupation. Donc c'est à la mémoire fertile au Gyptis, dimanche 18 juin 2023. Donc rappelant, si vous voulez avoir l'ensemble de nos activités et de l'agenda très riche, vous pouvez le voir sur notre site internet ou la page Facebook en tapant Palestine 13. Pour le reste de l'émission, je vous propose deux reportages. Le premier, culinaire, qui vous donnera un goût aux recettes palestiniennes d'une jeune palestinienne, Hind Tabou, qui est à Paris. Elle va par exemple parler de la kotsiyé, donc c'est un plat hummus et foule, mais aussi du hummus. Elle va vous présenter le mjaddara, mais surtout la makluba, bien sûr. Et d'autres aussi plats palestiniens et aussi desserts. Le second reportage, c'est un reportage culturel à l'occasion de l'exposition à Paris qui est intitulée « Ce que la Palestine apporte au monde ». Donc, « Ce que la Palestine apporte au monde », du 31 mai au 19 novembre 2023, on y retrouve des toiles d'artistes venant du monde entier, ainsi que de nombreuses photographies dépeignant la Palestine d'hier et d'aujourd'hui. Ce reportage, il va donc pour nous parler de ce grand événement, donc ce que la Palestine apporte au monde, de cette exposition. On entendra Ilyes Sanbar, qui est historien, poète, essayiste, traducteur du poète Mahmoud Darwish, et aussi ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, et de Rayed Bawaya, qui est photographe. Donc, ils vont nous parler de cette exposition. Bonne écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Thank you.
Bonjour.
Bonjour, Intahbou. Vous êtes cuisinière. Vous êtes une chef palestinienne qui vit à Paris depuis quelque temps. Et c'est la première fois que vous faites un entretien en français.
Exactement. Hein? C'est la première fois que je parle en français au public.
Bien, merci, merci beaucoup. Vous êtes applaudi comme Oum Kalthoum, qui s'apprêtait à chanter Inta Amri.
Oui, Inta Amri.
Qui veut dire ?
Qui veut dire tu es ma vie.
Est-ce que la cuisine, c'est un élément essentiel de la culture palestinienne ?
Oui et non. Oui, parce que... Bien sûr, la cuisine palestinienne, c'est une cuisine très riche et variée. Et les Palestiniens, en général, ils aiment manger. Et ils aiment célébrer la vie en mangeant. Mais cuisiner comme par exemple un métier, c'est vraiment pas très respecté. J'ai l'impression que dans notre région, c'est quelque chose que les filles... font à la maison, c'est pas sérieux.
Ce que je peux dire d'expérience, c'est que j'ai goûté votre cuisine et que vous prenez ça très sérieusement et
oui, ceux qui
la goûtent aussi. Alors, Intahbou, vous avez une activité de traiteur, enfin de cuisine à la maison, vous cuisinez chez les gens aussi.
Oui, hein? Aussi.
Et vous vous appelez Bandora.
Oui, ça veut dire tomate en palestinien. C'est un mot qui vient de l'italien, pomodoro.
La pomme d'or, oui.
Voilà. Et Bandora, en dialecte palestinien, ça a vraiment une connotation politique. Pendant la guerre civile au Liban, les armées, ils vont te montrer une tomate et ils te demandent qu'est-ce que c'est. Et si tu dis Banadura, comme les Libanais, ils te laissent, voilà. Et si tu dis Bandora... à la palestinienne, tu es fini. Et j'ai lu ça dans le livre de Sor Chalandon, Les Quatrièmes Murs. Et c'était juste deux mois avant de lancer mon projet. J'ai décidé de l'appeler Bandora. Voilà. Façon de dire, je suis palestinienne.
Alors, vous avez été élevée, on peut dire, au Moyen-Orient, un peu dans tous les pays du Levant.
Oui, c'est vrai, je suis née à Koweït. On a dû déménager de Koweït pendant la guerre, à Jérusalem et Hébron, où je viens. Et après, on est allé à Amman, Jordanie, et puis le Qatar, et Dubaï, Abu Dhabi. Et voilà, ça fait 3 ans que je suis en France.
Et vous avez épousé un chef libanais.
C'est vrai.
Qui est Karim Haïdar.
Oui. Hein,
qui vient d'ouvrir un restaurant qui s'appelle Askini.
Askini.
Intahbou, j'aimerais que vous nous contextualisiez cette cuisine dans le monde de Souleymane, dans cette influence de la Renaissance de cette partie de la Méditerranée qui allait de la Hongrie jusqu'à l'Afrique du Nord.
Il faut dire d'abord que ce n'est pas seulement les Ottomans qui ont influencé la ville de Jérusalem. Ou, à l'époque, la région de Palestine, ou les Palestiniens. C'est vraiment un petit peu de tout. Les Ottomans, les Grecs, les Arméniens, les Arabes de l'Arabie, les Philistins, les Cananites,
Perses.
Les Perses. C'est vraiment l'histoire de notre région. Et nous aussi, on a influencé les Ottomans. Ils mangent beaucoup de plats arabes avec des noms arabes, comme le hummus, le falafel, le kebab, le kubba. Tout ça, c'est des mots arabes. Donc, comme nous, on a été influencés par ces peuples, nous aussi, on a influencé.
Si l'on s'intéresse à la cuisine yérusalemite, la cuisine de Jérusalem, est-ce que vous avez, vous, un plat qui lui ressemble?
C'est un plat de pois chiches, de hummus et fèves. Pour moi, c'est le plat le plus typique, emblématique de Jérusalem.
Hummus, ça veut dire pois chiche. Hein?
Oui, ça veut dire pois chiche en arabe littéraire.
Alors, moi, j'aimerais avoir la recette du hummus de Hind Tahboub.
Alors, ma recette de hummus, c'est très facile. Il faut d'abord comprendre ce que c'est le dip. C'est 80% de pois chiches. Il faut tremper les pois chiches avec bicarbonate de soude la veille. On rince et on fait bouillir avec une pincée aussi de bicarbonate de soude. On les cuit pendant 2 heures au moins. On rince, mais on garde l'eau de cuisson pour faire le hummus. Mais d'abord, on mixe les pois chiches jusqu'à ce qu'il devient très, très
lisse. Soyeux.
Oui. Et on rajoute l'eau de cuisson petit à petit avec le jus de citron et le tahini. Mais il faut juste comprendre que c'est 80% de pois chiches. C'est pas moitié-moitié. Il faut pas que le goût de sésame
domine sur le pois chiche.
Voilà. L'huile d'olive, on peut mettre au-dessus le plat, mais pas dedans.
Alors, le plat dont vous parliez, vous disiez, c'est hummus et foule, c'est-à-dire pois chiche et fèves. Comment s'appelle-t-il ?
Jérusalemite.
Et en arabe ?
Otsiyeh. Ça se traduit comme jérusalemite.
C'est les habitants de Jérusalem, les habitants palestiniens de Jérusalem.
Oui. En fait, en arabe, Jérusalem, on dit Al-Quds, la ville sacrée. Et Qudsiyeh, ça veut dire la sacrée.
Pour faire cette sacrée, que fait-on avec le foule? Que fait-on avec les fèves?
On fait revenir des oignons, un peu d'ail, et puis des tomates. Et après, on rajoute les fèves qui sont déjà cuites. On écrase avec une fourchette, sel, poivre, un petit peu de vinaigre ou jus de citron et c'est fait.
Et le plat est terminé et on peut le manger en entier.
Oui. Moi, j'aime rajouter un petit peu de poivre et de piment.
Il y a justement des plats bibliques qui sont toujours aujourd'hui des plats qu'on peut manger à Jérusalem. Ce plat dont nous venons de parler, c'est un de ces plats-là.
C'est vraiment tous les légumes secs.
Oui, c'est la cucina povera.
Oui, c'est comme par exemple, il y a un plat qui s'appelle le mjaddara. C'est un plat de bourgoul concassé et lentilles vertes.
C'est le plat de lentilles bibliques.
Oui, exactement. C'est un des plats les plus vieux de cette région.
Et comment vous pourriez traduire ?
Mjaddara, alors ça veut dire chicken pox.
Ah, c'est anglais. La varicelle en fin de compte.
Oui, voilà. Exactement. Oui. Alors, en raison des lentilles vertes.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en faire la recette ?
Alors, on a besoin de lentilles, bourgoul ou riz, cannelle, cumin, carvi, l'huile d'olive et oignon. On commence par revenir les oignons. On rajoute les épices, le bourgoul. À part, on fait bouillir les lentilles et on garde l'eau de cuisson pour cuire le bourgoul. C'est comme ça que je le fais. Donc moi, je fais moitié lentilles, moitié bourgoul ou riz. Et voilà, c'est très costaud et très bon. Même s'il n'y a pas de viande. c'est vraiment, comme on dit, c'est une relation de haine et d'amour pour moi, ce plat.
Pourquoi ?
Parce que ma mère, elle faisait quand, à la fin du mois, quand il n'y avait plus d'argent pour acheter de la viande. Et quand j'étais petite, je détestais ce plat. C'était un des plats favoris de maman, même s'il n'y avait pas de viande ou poulet ou poisson. Et maintenant, je l'adore. Ça me donne des souvenirs de maman.
يا نار قلبي اشعلي واشوي لوح النية هلا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني يا لبنية يا نار قلبي اشعلي واشوي لوح النية
وبنتي قالت لأمي
Apo and the Apostles
Apo and the Apostles, c'est un groupe palestinien de Jérusalem.
Hein, qui est très mélangé aussi, parce que avec des Arméniens, des Palestiniens.
C'est vrai, oui. Le lead, le chanteur est palestino-arménien.
C'est une chanson très ancienne.
Oui, c'est, pour nous, c'est héritage.
Vous pouvez la chanter, cette chanson-là
هلا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني يا لبنية يا نار قلبي اشعلي وشوي لوح النية Allez.
Merci, c'est très beau. Si on continue notre dégustation sur cette cuisine palestinienne, est-ce qu'il y a un plat qui vous paraît très symbolique encore ?
Oui, bien sûr, il y a le plat national du peuple palestinien, qui est le ma'loube. C'est un gâteau de riz, en fait. Un gâteau de riz rond, cannelé, aubergines frites et viande.
La viande, c'est de l'agneau, principalement ?
C'est l'agneau, oui. Et moi, je le fais avec la souris d'agneau.
Et alors, le makhloubé, est-ce que vous pouvez nous le préparer ?
D'abord, il faut cuire les souris d'agneau. Et moi, je mettrai à mirepoix, oignons, carottes, par exemple, un petit peu de poivre ou un bouquet garni pour donner un petit peu de goût parfumé. À part, on rince le riz rond, on rajoute les épices, qui sont cannelle, cumin, les 7 épices, beaucoup de poivre noir et pas de poivre blanc, un peu de paprika. Et voilà, ça c'est le riz. On fait frire les aubergines et dans le casserole, on fait couche d'aubergines, couche de viande et puis le riz à la fin. On rajoute l'eau de cuisson des souris d'agneau. Et quand le casserole devient très chaud, on baisse la température et on cuit pendant 15 à 20 minutes. Et après, on renverse le casserole voilà, dans un grand plat. Et c'est exactement comme un gâteau.
C'est un plat qu'on retrouve dans les cultures perses aussi, enfin c'est afghane, sinon il y a pas, vous retrouvez pas ces saveurs là et ces préparations là.
Ces saveurs, je sais pas. Le technique de cuisson, ça existe, c'est sûr, mais pas avec le riz rond. Le riz rond égyptien, ça n'existe pas vraiment dans la cuisine perse. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de plats qui rassemblent...
Oui, c'est fascinant d'ailleurs, je trouve. Cette...
Oui, surtout que les aubergines, c'est un peu... Moi, je trouve les aubergines un peu sucrées. C'est l'influence perse de cuisiner avec les fruits, et... parce que c'est un fruit, les aubergines.
Est-ce que vous avez une douceur particulière, une pâtisserie qui pour vous est particulièrement symbolique?
Pour être franche, je ne suis pas très sucre. J'aime les desserts qui ne sont pas très sucrés. Par exemple, le pain perdu oriental qui s'appelle le Om Ali. Om Ali, la mère de Ali. Et je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais c'est mon dessert favori. C'est un pain perdu. Moi, j'utilise le croissant parce que c'est très bon et croustillant quand ça sort de four. Voilà, le Om Ali. Et le flan de lait. Il n'y a que de lait et de maïzena et la fleur d'oranger. C'est tout. Et c'est, on rajoute sirop de sucre à la fleur d'oranger ou à la rose. Mamnahki Wittemmelian à la France Taqafa مع ألان كروجير.
Quand vous évoquez la cuisine palestinienne, il y a une place particulière entre tout ce qui est graines sèches et la viande. Il y a une vraie hiérarchie culturelle entre les deux.
Oui, il y a beaucoup plus de respect pour la viande que les légumes secs. Surtout dans le sud de la Palestine. Moi, je viens d'Hébron, du sud de la Palestine. À Hébron, on mange beaucoup de viande et c'est considéré comme honteux de servir les invités des plats végétariens ou des plats sans viande. Même poulet, c'est pas très bien.
Si on regarde la carte du Moyen-Orient et de la Palestine, en termes de cuisine, comment les choses se définissent-elles géographiquement?
Maintenant, ça devient très compliqué parce que quand on parle de la Palestine, moi, quand je parle de la Palestine, je parle de ma Palestine.
C'est-à-dire, c'est celle de la diaspora?
C'est la Palestine historique parce que je viens de là-bas, même si ça n'existe plus maintenant, aujourd'hui, pour être raisonnable, ça n'existe plus. Mais le peuple existe. Le peuple de cette Palestine existe toujours et leur cuisine existe partout dans le monde. Par exemple, ma grand-mère vient de Haïfa. Ça fait quoi, 60 années qu'elle n'a pas vu sa ville, mais elle cuisine vraiment sa cuisine, la cuisine de sa maman, de sa grand-mère. Donc géographiquement, c'est très difficile de s'identifier à la cuisine palestinienne par, le terroir, mais le peuple existe là-bas toujours.
Alors la cuisine de Haïfa, qu'est-ce que c'est comme
C'est une cuisine de la mer. Et,
de la pêche miraculeuse.
Oui, ils font le plat qui s'appelle le sayadiyeh. C'est le cacciatore du Levant. Et ça veut dire le plat du pêcheur. C'est un plat de riz basmati et poisson au cumin, l'huile d'olive, une sauce de pâte de sésame et de jus de citron ou orange à côté. C'est très important. Quelques sauces pimentées aussi. Et bien sûr, le fumet de poisson. C'est très important.
Et quand on remonte vers le nord?
Le nord, j'ai découvert la cuisine du nord, nord extrême, en France, quand j'ai rencontré une amie palestinienne qui vient d'un petit village de Galilée. Et je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ils ont une cuisine qui est tellement différente de la nôtre. Même dans le centre de Palestine, ils ne font pas les plats du nord extrême, comme le kebbenaye, qui est un plat de burgoul concassé et viande crue, agneau cru. Mais là-bas, en Galilée, ils rajoutent la pâte de piment. C'est un tartare d'agneau, mais c'est très rouge parce qu'ils mettent beaucoup de pâte de piment. Et c'est pas comme ça que les Libanais font le kebbenaye. On parlait de ça, Karim et moi, quand...
Karim, c'est votre mari, hein, le chef, Karim Haïdar.
C'est ça qui est très, très intéressant du Levant. C'est l'histoire des différences de la cuisine par la région, en fait, et pas par les pays. C'est pas vraiment une question de Liban, Palestine, Jordanie, Syrie. C'est vraiment les régions.
C'est le terroir plus que la frontière.
Oui, exactement.
Quand vous voyez un chef starisé comme Ottolenghi, qui fait la fusion entre toutes les cuisines du Levant, ça vous met en appétit? Son livre « Jérusalem », qui est un best-seller mondial.
Je pense que Ottolenghi est futuriste. Et pour moi, il faut du temps pour que je digère sa philosophie. Quand j'ai vu le livre, et Sami, il est très bon ami de moi. Je l'aime très bien. Je respecte beaucoup ce qu'il fait. Quand j'ai vu le livre, je n'ai pas très apprécié. Parce que pour moi, la cuisine jérusalemite, c'est la cuisine jérusalemite. Et ça, ce n'est pas la cuisine des immigrants en Jérusalem. Quand on parle de la cuisine jérusalemite, on parle d'une cuisine très ancienne et pas un petit peu de tout, pas un petit peu de... Europe,
oui,
Italie...
Oui, vous voulez dire que dans la cuisine israélienne aujourd'hui, il y a le brassage à la fois de l'Afrique du Nord et de l'Europe de l'Est.
Exactement.
Vous vous attachez à cette cuisine biblique triplement millénaire qui est celle de...
Oui, qui est le résultat de tous ces gens, tous ces peuples qui ont vécu là-bas. Je ne suis pas contre... Je connais très bien qu'il y a un peuple qui vit là-bas. Il y a des gens qui ont ramené leur cuisine de partout dans le monde, de l'Afrique du Nord, de l'Europe de l'Est, même des Irakiens juifs qui sont venus en Israël. Ils ont ramené leur cuisine, leur culture, les Yéménites aussi, les Perses, les Indiens. Mais quand on parle... Pour moi, ça me gêne comment la cuisine palestinienne est devenue une cuisine exotique de cette terre. Et je trouve que Ottolenghi, il a réussi à faire une transformation, le visage de la cuisine palestino-israélienne.
Et vous, aujourd'hui, Hind Tahbub, si vous vouliez définir enfin, les contours de cette cuisine palestinienne d'aujourd'hui et, je dirais, de la diaspora, qu'est-ce qui la définirait?
C'est une cuisine qui raconte l'histoire d'un peuple qui existe. Quand on parle de la cuisine palestinienne, on parle vraiment de l'histoire, la culture palestinienne, l'héritage culinaire du peuple palestinien. Et comment on cuisine, comment on mange, c'est pas vraiment, comme on dit, un livre de cuisine. Quand je parle de la cuisine palestinienne, je parle pas beaucoup des recettes et de quantité. De mesures.
C'est quoi? C'est cette idée de transmission de votre mère, de votre grand-mère de...
Oui, exactement. J'essaie de raconter mon histoire, de transmettre ma cuisine et de la partager avec tout le monde.
Hind Tahbub, j'ai dit que vous étiez chef palestinienne, j'ai pas dit que vous étiez aussi chanteuse.
Après le service, je chante un peu. يا زريف الطول وقفت أقول لك آه رايح عالغربة وبلادك أحسن لك وين يا زريف تروح وتتملل من بعد العشرة اللي كانت بيننا يا زريف الطول عيني يا زريف حبيتك سنتين ومين اللي عرف مين بحق الله يطعمني الرغيف يا رغيف الحلو يكفيني سنة يا رغيف الحلو يكفيني سنة.
Hind Tahbub, merci d'avoir accepté de chanter comme ça a cappella, sans préparation, et de vous être exprimé en français. Et en français, justement, cette chanson, de quoi parle-t-elle, en trois mots?
De l'amour, la vie et le pain.
L'amour, la vie et le pain, bon, on n'a rien voilà. besoin d'autre.
J'espère. Bienvenue au club.
Qui suis-je ? Bonjour à tous. Qui suis-je ? C'est une question que les autres posent, disait Mahmoud Darwish. Des images de Palestine loin des clichés. Le club accueille aujourd'hui Elias Sambar, écrivain, traducteur, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, président du conseil d'administration du Musée national d'art moderne et contemporain de la Palestine. Et le photographe Raed Bawaya. L'exposition « Ce que la Palestine apporte au monde », dont Elias Sambar est commissaire, vient d'ouvrir ses portes à l'Institut du monde arabe à Paris. Elle est à voir jusqu'à la fin novembre. Elle nous emmène dans les valises de Jean Genet, mais aussi dans des paysages d'hier et des photographies de rue d'aujourd'hui. On va tenter ensemble de répondre à cette question « Qui suis-je » ou plutôt « Qui sommes-nous » ensemble jusqu'à midi et demi. Une émission programmée par Henri Leblanc, Corinne Amar et Anouk Delfino, préparée par Sacha Mattei. À la réalisation, Félicie Fogère avec Jean Guilin, Meige à la technique. Bonjour Elias Sambar.
Bonjour.
Bonjour et bonjour à vous Raed Bawaya.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Si je vous demande comment ça va Elias Sambar, est-ce qu'il est possible que vous me répondiez en arabe par « du goudron » traduit littéralement? Qu'est-ce que ça signifierait?
L'expression est très courante en arabe quand les choses sont mauvaises, dures au niveau quotidien. La réponse c'est zift. Zift veut dire goudron, donc la noirceur.
Ça veut dire ça va pas.
Ça veut dire que ça va pas. Ça veut dire qu'elle est noire. C'est la noire. Mais vous savez, il y a le même mot dans un mode magnifique de musique au Portugal, qui est le saudade. Saudade veut dire vient de l'arabe de sauda, qui veut dire la noirceur du cœur. Et le zift, c'est aussi une forme de saudade par rapport à des gens qui vivent sous occupation, dans une injustice flagrante quotidienne. Mais, comme vous le disiez déjà, avec cette exposition, ça va très bien, parce que cette exposition montre à quel point nous sommes bel et bien vivants, et à quel point nous sommes toujours, je dis toujours parce que ça ne date pas d'hier, porteurs d'une obsession de la culture. Nous sommes obsédés par la culture. Ça se voit moins depuis longtemps, parce que le conflit est là, qui un peu recouvre d'autres aspects de la vie, mais cette donne de l'identité palestinienne n'a jamais cessé d'exister et de se manifester. Donc cette exposition, c'est fondamentalement dire que ce qu'on montre, c'est la culture.
Mais cette exposition, elle nous montre justement du goudron, c'est-à-dire la réalité, parfois dure, parfois sombre, mais aussi des plumes. Parce qu'il y a une part de rêve aussi à travers ce que les artistes présentent dans cette exposition. Raed Bawaya, comment vous allez ?
Ben, je vais très bien, merci. On essaye, c'est pas toujours, mais on essaye d'être bien, on essaye de parfois d'oublier, de faire oublier pour, voilà, pour pouvoir continuer à faire les choses. Cette exposition, c'est qui ouvre au monde plus de 400 fenêtres sur la Palestine, et voilà, et montre que la Palestine est encore existante.
Et elle montre beaucoup.
Et continue à faire, ouais, faire le chemin qui a choisi, le chemin de la culture, et exprimer à travers la culture autre chose qu'on voit habituellement, on se voit habituellement dans le monde. Voilà.
Et elle montre beaucoup de visages de la Palestine d'hier.
Beaucoup de visages diversifiés de la Palestine, de la culture, de la société palestinienne, et de l'autre, de la société palestinienne, surtout l'être humain de la Palestine.
Pour cette exposition, vous avez rassemblé des images de Palestine. Elles ont plus d'un siècle pour certaines, ou à peine plus d'un an pour d'autres. Elles dialoguent entre elles dans une même langue, c'est la photographie. Ce médium, il permet beaucoup. Quand est-ce que vous avez choisi, Raed Bawaya, de vous saisir d'un appareil photo et de faire de la photographie votre langue ?
C'était la photographie pour moi, ou plutôt l'appareil photo, la machine que je connais dans les marchés de la vieille ville de Jérusalem. Quand j'étais en France, j'avais 10 ans, que ma mère m'a envoyé là-bas pour vendre des raisins, pour pouvoir amener un bout de besoin de la famille, notre famille nombreuse. Et là-bas, c'est mon rêve, pas de photographe, mais de connaître le médium, de découvrir cet appareil. Et la nuit, dans les marchés de vieille ville de Jérusalem, parce que comme vous le connaissez, la vieille ville de Jérusalem, c'est la ville touristique le plus visité par les touristes, et voilà, c'est cet appareil que je rencontrais avec, je l'ai vu avec toutes les masses de touristes qui sont venus visiter la ville sainte. Et là-bas, ce désir, il a né avec moi de découvrir cet appareil photo, de le connaître, et le désir qui était très difficile à réaliser, très difficile à toucher, parce que voilà, je suis né dans une famille sans moyens. Donc voilà, ce rêve, je portais jusqu'à l'âge de 30 ans, et où j'ai commencé à faire des études, commencer mes études photographiques à l'école de photo à Jérusalem.
Voilà, et maintenant, vous avez toujours ce boîtier sur vous ?
Oui, maintenant, voilà, donc je suis... J'essaye, à travers mon appareil photo, à travers la photographie, voilà, je
vous essayez de quoi ? De témoigner ? De montrer, de raconter.
Je voyage pour témoigner, de raconter. Mais si, bon, moi, la photographie, c'est une recherche sociale à travers la photographie. Mon appareil photo, c'est un objectif, c'est un moyen pour faire la recherche sociale à travers la photographie, pour pouvoir montrer l'autre.
Il y a effectivement deux regards présentés dans cette exposition. Un regard plutôt orientaliste, Elias Sambar, avec une trentaine de clichés qui ont quelque part figé une certaine idée de la Palestine à l'époque. Oui. Cette idée d'une terre sainte, immuable. Et puis, alors ça c'est vu là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était plutôt des photos en noir et blanc qui sont passées à la couleur grâce à un procédé qui est le photochrome. Et puis un regard contemporain avec des photographes qui racontent la vie quotidienne en Palestine aujourd'hui. Vous faites dialoguer ces deux regards. Registre d'images, mais vous êtes reparti là encore du choix de la photo. Pourquoi, Elias?
Je vais vous dire, il y a une chose fondamentale, et j'ai un énorme plaisir à écouter Raed. Raed était venu me voir il y a quelques années à l'UNESCO, quand j'étais encore ambassadeur, il commençait son travail, et j'avais été littéralement époustouflé par la beauté des clichés qu'il avait apportés et qu'il me montrait. Nous n'aurions pas eu l'occasion, et c'est une chose très importante à dire aujourd'hui, n'aurions pas eu l'occasion d'aborder ces territoires, l'image, la photographie, la poésie avec la voix de Derwish, les arts graphiques, la peinture, ainsi de suite, n'aurions pas eu l'occasion de le faire s'il n'y avait pas eu une forme d'hospitalité assez exceptionnelle à l'Institut du Monde Arabe. Souvent on me dit, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelque part un accueil, et donc ce projet de musée est fils, enfant de cet accueil, et c'est une chose qui nous touche beaucoup, énormément, et il faut dire, il faut le reconnaître, nous avons une grande gratitude pour l'accueil que nous a réservé Jacques Lang.
On va en parler si vous voulez
oui,
bien,
oui.
Juste
non,
de... c'est intéressant, pourquoi... c'est la question aussi du musée qui se pose à travers ça.
Je vais y arriver, parce que ça n'est pas commun, parce que souvent la question qu'on me pose, c'est pas seulement l'image, c'est qu'est-ce que vous avez à montrer. Ce que j'ai à montrer, je l'ai depuis longtemps. Mais pour la première fois, j'ai l'occasion de le montrer. C'est ça qui est important à mes yeux. Au niveau de l'image, bien entendu qu'il y a un travail au 19e siècle de figer une terre, de l'enfermer dans des textes ou dans des théologies ou dans des croyances. Et c'est ainsi que commence la préparation du fameux slogan de la terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc tous ces clichés, et ils sont très dangereux parce qu'ils sont très beaux. Ces photos du 19e sont extrêmement charmeuses, pas charmantes, vraiment charmeuses. Et elles ont beaucoup contribué à asseoir cette réalité. Parce qu'il y a des personnages dans ces images. Mais vous les voyez comme des vestiges, des restes de quelque chose. Et un vide. Et j'ai voulu les mettre en confrontation un peu avec toute la vitalité, pas simplement la vie quotidienne aujourd'hui, toute la vitalité créatrice d'un mouvement aujourd'hui de photographes dans lequel, auquel participent beaucoup de femmes palestiniennes, et c'est une chose très belle aussi, qui est un regard créatif, nouveau, et surtout qui n'est pas uniquement, vous posiez la question à Raed, qui n'est pas uniquement une illustration du conflit, qui est leur vie quotidienne.
Complètement. Et on va illustrer ce point-là avec quelques-unes des photos et des photographes présents dans cette exposition. Mais juste, Elias Sambar, quand vous dites ces images sont charmeuses, moi j'entends peut-être aussi dangereuses aussi derrière ça. En quoi ces clichés du 19e?
Parce qu'elles sont très belles.
Et donc?
Parce que c'est une très belle terre.
Et donc?
Et qu'elle a toujours été une terre cible. Mais... pas simplement pour des raisons religieuses. Mais elles ont été assujetties à une terre. Il faut que vous sachiez, à l'époque où se font ces photographies, le grand mouvement qui va notamment, qui est sous la pulsion de l'Église d'Angleterre, plus que les autres, donc les Anglicans, décide lui-même de s'appeler une croisade pacifique. Ça n'est plus la guerre, mais c'est quand même une croisade. Et c'est vrai. C'est vrai que ça a repris, avec souvent des très mauvaises surprises. Par exemple, quand vous voyez dans les textes des voyageurs leur dépit, quand ils constatent que les chrétiens palestiniens ressemblent aux musulmans palestiniens, que les musulmans palestiniens ressemblent aux juifs palestiniens, et que tout ce monde ne ressemble pas à l'image idyllique qu'on essaye de montrer dans les photos. Et bien sûr, il y a la peinture aussi, orientaliste. Donc, il fallait à tout prix montrer cet écart entre un pays fictif et un pays réel.
Un pays fictif et un paradis perdu, peut-être aussi.
Moi, j'ai très peur des paradis perdus. Ils ont fait le lit de toutes les dictatures. Vous savez, toutes les dictatures parlent d'un âge d'or. à l'époque où tous les peuples étaient parfaits, où il n'y avait pas d'étrangers parmi nous pour nous souiller, où nous étions purs, il y a la pureté dans l'idée de ces situations d'origine. Moi, ça me fait très très peur. En tout cas, c'est un élément qui a été utilisé par tous les despotismes. Non, il n'y a pas de pureté. Ça n'existe pas. Il y a des choses très belles. Tous les peuples sont complexes. Dans tous les peuples, vous avez à boire et à manger, si je peux m'exprimer ainsi. Cette idée idyllique des paradis perdus est très dangereuse. C'est pas un paradis perdu, mais c'est un pays qui était très beau, qui est toujours très beau, malgré tout ce que fait l'occupant. Je parle du mur, des destructions. La nature est en train d'être très, très ravagée. Aujourd'hui, et souvent avec des interlocuteurs israéliens, je leur dis, moi, je me pose une question. Ce pays dans lequel vous êtes en train de faire ce que vous faites, est-ce que vous l'aimez vraiment? Vous êtes sûr que vous l'aimez pour lui faire subir toutes ces destructions dans ses collines, dans ses vallées, dans ses paysages, dans son image? Son image. Et j'espère qu'elle ne sera pas immuable. Encore une fois, je ne suis pas à la recherche de retrouver l'image antérieure de la Palestine avant l'occupation ou avant la destruction. Vous comprenez? Ce qui m'intéresse beaucoup est toutes les salles de cette exposition, j'espère, seront le reflet de cela. C'est le goût de la vie.
Oui, mais il y a des oliviers qui sont peut-être plus vieux que vous aujourd'hui en Palestine. Et eux aussi, c'est important qu'ils aient un avenir. On comprend bien cette idée-là. Il y a parmi, ou dans cette exposition, des voix importantes aussi de la culture palestinienne contemporaine. Certains vivent encore là-bas, d'autres sont en exil. Oui. On peut citer Annie Zourob, qui a grandi à Rafah, puis à Naplouse, puis Jenin, puis Ramallah, avant de venir s'installer à Paris, et qui a fait justement de cette question du goudron, qui a ouvert notre discussion, une série, puisque le goudron, c'est aussi pour lui une matière particulière avec laquelle il travaille, il peint, et à travers laquelle il questionne l'identité, parce que c'est un peu le fil conducteur aussi de toutes vos photographies. Red Bawaï, il y a au début de ce cycle de l'exposition des photographies de vous, avec cette série à caractère autobiographique que vous avez imaginée. Je vais essayer, Red Bawaï, de ne pas écorcher le nom de cette série, puisque c'est en fait le numéro de votre carte d'identité, ID 92 55 96 611. Voilà pour les numéros, les chiffres qui la composent. Et cette série à vous de photos, elle retrace en réalité la condition des travailleurs palestiniens qui sont sans permis en Israël et qui régulièrement doivent traverser cette frontière, au péril aussi, au péril parfois de leur vie. Ils doivent la traverser pour y gagner leur vie. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter avec cette série? Comment est-elle née surtout?
Oui, en fait, merci. En fait, cette série, voilà, elle est née dans une cellule de prison à Jérusalem. Et c'était une journée ordinaire où je me suis réveillé à 5 heures le matin, comme je faisais pendant 3 ans, pendant la durée de mes études à l'école de photo à Jérusalem. Et je commençais mes études à l'école de Jérusalem au début de l'année de 2000, quelques mois après la deuxième intifada a commencé et le passage et après le gouvernement israélien il a appliqué une loi d'interdire la citoyenne palestinienne d'entrer en Israël, dans le territoire israélien, notamment à Jérusalem-Est. Et c'était mon cas. C'était une journée ordinaire où je me suis réveillé à 5 heures le matin, traversant trois montagnes pendant 2 heures et demie pour pouvoir arriver avec. Parce que, heureusement, je ne sais pas heureusement ou malheureusement, mon village natal est situé sur la ligne verte qui sépare le territoire palestinien, le territoire palestinien du territoire israélien. Et de l'autre côté, de l'autre territoire israélien, il y a un autre village mitoyen palestinien qui s'appelle Abu Ghosh. Et traversant, arriver à Abu Ghosh, au village Abu Ghosh, vous pouvez prendre le bus jusqu'à Jérusalem pour assister à mes cours de photo à l'école de photo à 8 heures. Et quelques centaines de mètres avant d'arriver à mon école, j'étais arrêté par un point de contrôle de la police de frontières israélien, spécial israélien, Et c'était un checkpoint surprise, voilà. Elles m'ont arrêté, elles m'ont demandé mes papiers. Et là, elles ont découvert que je suis palestinien, originaire, citoyen de la territoire palestinien. Et voilà, et j'étais, voilà, elles m'ont amené à, au prison. Pendant, voilà, en prison, pendant 2 semaines, j'ai passé 2 semaines en prison pour une seule cause, une simple cause, que j'étais étudiant à l'école de photo. J'ai fait mes études à l'école de photo. Et le projet des travailleurs palestiniens, légaux palestiniens qui travaillent et vivent en Israël pendant leur mission de travail, le Blue Bar de Hut, des travailleurs qui travaillent dans le bâtiment, la construction, c'est-à-dire traverse à cette époque, c'était avant la construction du mur, c'était la frontière, en fait, la frontière entre le territoire palestinien et le territoire israélien, c'était quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose d'artificiel, c'est-à-dire la ligne verte, mais il n'y a pas de ligne verte, c'est un territoire.
Et par exemple, cette photographie qui est présente dans l'exposition, elle est photocopiée en noir et blanc pour pouvoir vous la présenter, qui date de 2003, ces hommes qui sont comme presque cagoulés ou avec des sacs plastiques sur la tête, qui sont en train de marcher traverser un paysage plutôt aride, qu'est-ce qu'elle raconte?
En fait, cette photo, elle témoigne du passage des étudiants d'une école à côté de la colonie israélienne dans la région de Gauche et Sion, à côté de Bethléem. Le moment que j'ai pris cette photo, c'était une journée dans une matinée, et la pleuvait, et voilà, c'était c'était ce sac de plastique de sac poubelle, en fait, pour le protéger de la pluie, de la matinée, pour pouvoir traverser la comme je vous dis, cette frontière artificielle, invisible entre les deux côtés.
Voilà. Une exposition consacrée à la Palestine, ce que la Palestine apporte au monde, avec nos deux invités aujourd'hui, le photographe Raed Bawaya et Elias Sambar, écrivain commissaire de cette exposition à voir à l'Institut du Monde Arabe à Paris.
Wallahi, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know is to be Palestinians, to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. From Gaza with love. From Gaza with love, baby. Palestine, I sincere. وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend 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 pas somebody tell Bella Hadid let's change out to Abd al-Hamid. Now I'm gonna come off too strong, but still I'll for lahi, I'm planting the seeds. Yeah, I need, I could get you what you need, but I hate it when a text go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's worse to love. From Gaza with love, if you hate it, then why you'll never go back. From Gaza with love, baby, Palestine, I sincere. وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend.
أن نعبر عن أمل ولكن تذكر جو نو شيرشي با دو فاسون اكسبليسيت اكسبريمي الأمل كان نتيجة عملية شعرية
مي ليسبواغ إنيك دو لافير بويتيك ألميم
لأنه أخطر ما يهدد الفلسطينيين الآن هو فقدان الأمل
probablement que la plus grande menace aujourd'hui qui pèse sur les Palestiniens c'est le désespoir, la perte d'espoir. Parce que tuer l'espoir c'est pousser les Palestiniens à des situations de désespoir
aiguës.
Et quand une société est acculée au désespoir,
les,
les, le résultat est autodestructeur et destructeur également de l'autre partie. Il semble que la poésie soit en fait infiniment plus forte que le poète lui-même. Et c'est la poésie qui donne l'espoir au poète. Ce n'est pas le poète qui exprime son espoir dans le poème. Parce que la poésie a sa propre logique de quête de la vie.
Oui, on pourrait dire que Mahmoud Darwish, pareil de la culture, hein, il y a au sein de la culture une propre quête, une quête d'espoir aussi. C'est cette exposition, et c'est sa force, c'est qu'elle aussi entre la réalité et le rêve, entre hier et demain aussi, Elias Sambar, avec à la fois, vous l'évoquiez, des représentations quand même assez décalées par rapport à cet imaginaire qu'on peut avoir des territoires palestiniens aujourd'hui, celui des destructions, aussi d'une forme d'enfermement. Vous montrez à travers les photos notamment de Mahen Ahmad une jeunesse en vie, vivante, sur des skateboards par exemple. Lui, il est né en 1992, sa famille est partie vivre aux États-Unis quand il avait 2 ans. Et on voit à travers ces photos des corps et encore des corps en vie et en mouvement. Et puis il y a cette salle consacrée au poète Mahmoud Darwish, la salle du poème, la bien nommée, avec des aquarelles, des calligraphies, qui portent sa poésie, une poésie qui pourrait presque rejoindre celle de Saint-Levant, dont on vient d'entendre un extrait, « From Gaza with Love ». C'est une chanson ode à l'endroit où il a vécu les 7 premières années de sa vie. Une enfance à Gaza. C'est un enfant de la diaspora palestinienne, comme beaucoup des photographes que vous avez rassemblés dans cette exposition. Il vit aujourd'hui à Paris et il vient de sortir son premier EP après avoir fait connaissance avec son public sur les réseaux sociaux. J'en reviens juste à Mahmoud Darwish, à cette lecture de Éloge de l'ombre haute, poème épique, documentaire que vous présentez dans l'exposition, dans sa voix, et qui va rencontrer une salle à côté, celle d'une autre figure de la littérature qu'on n'imaginait pas forcément là, c'est Jean Genet. Expliquez-nous pourquoi, Elias Sambar.
L'espace consacré à Jean Genet, qui apporte le titre « Les valises de Jean Genet ». Vous savez, Jean Genet a jamais eu de lieu fixe. Il a vécu toute sa vie en déplacement volontaire. Nous avons été forcés au déplacement. Il n'était pas volontaire, lui était dans le déplacement volontaire. Et Jean Genet, 15 jours avant sa mort, a remis à Roland Dumas 2 valises. Qui contenait un peu des bouts de papier, des choses griffonnées sur des journaux, des débuts de projets de scénarios, des papiers. Et ces 2 valises qui sont un vrai trésor déjà pour connaître l'œuvre et surtout l'immense écrivain. Donc Genet est là à titre d'écrivain et à titre d'ami de la Palestine. Il n'est pas l'un ou l'autre, il est dans les deux. Et donc, ces 2 valises avaient été remises par Roland Dumas à l'IMEC, qui est à Caen, donc l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine. L'expo avait été faite, mais elle est tombée pile poil avec la Covid, la pandémie. Elle a duré quelques jours et plus personne n'a vu ce travail. Donc, quand nous avons commencé à organiser un peu cette exposition, à l'Institut du monde arabe, j'avais pris contact avec Albert Dichy, et donc l'exposition de Caen est également venue rejoindre l'exposition palestinienne, mais nous y avons ajouté, puisqu'ils étaient là, tout ce que nous avions fait comme travail à la revue d'études palestiniennes, puisque c'est à la revue d'études palestiniennes que Genet avait donné son texte 4 heures à Shatila au lendemain du massacre. Donc vous avez un peu tous les papiers de Genet avec beaucoup d'images et beaucoup de documents, mais également tout ce que la revue palestinienne a fait autour de Genet. Et là, il y a une phrase que j'avais reçue sur un bout de papier d'écolier, un carnet à ressort de la main de Jean, de Genet, dans lequel il dit « On me dit que j'aide les Palestiniens, quelle sottise, ils m'ont aidé à vivre ». Et c'est l'essentiel de ce lien. Et ce qui est très beau, c'est que le poème de Darwish est en écho avec le texte de Genet. Ils sont écrits au même moment. Et les deux sont
provoquée, suscitée par le massacre. Donc c'est une tragédie qui produit un grand texte de littérature,
voilà,
un grand poème.
Ouais, écrit en 83, 4 heures à Chatila, tout comme Éloge de l'ombre haute par Mahmoud Darwish, publié d'ailleurs à titre posthume par Actes Sud dans un recueil intitulé « Nous choisirons Sophocle et autres poèmes ». Il nous reste une minute, Elias Sambar, juste le temps de dire quand même que cette exposition abrite deux musées virtuels. Réellement un projet encore, ou un musée encore virtuel, pensé par le collectif Awaf, qui voudrait voir implanté à Gaza ce musée. Pour l'instant, il est dans le cloud. C'est un espace qui abolit les frontières. C'est une belle utopie, ce musée nuage qui revisite le patrimoine palestinien. Et puis, cette exposition, elle abrite aussi votre projet de musée, celui du futur musée national d'art moderne et contemporain de la Palestine, qui est hébergé à Paris pour l'instant à l'Institut du Monde Arabe et qui verra, vous l'espérez peut-être bientôt le jour, à Jérusalem-Est. Et tout ça, vous le disiez, cette idée d'accueil sans appropriation, cette idée d'hospitalité pose la question de l'appartenance des biens et c'est passionnant. Pour l'instant, ils sont accueillis là-bas, Elias Sambar, et cette exposition, un dernier mot.
Cette exposition, si on veut la résumer en un mot, quand on me dit qu'est-ce que vous apportez au monde, nous avons enfin l'occasion de donner notre visage, c'est-à-dire notre trait personnel, notre figure. Et c'est cela qui nous était interdit pendant très longtemps.
Merci beaucoup à vous, Elias Sambar. Merci mille fois, Raed Bawaya. Du nord au sud, à ne pas manquer aussi la très belle exposition de l'une des pionnières de l'art algérien, parce qu'il y a aussi ce dialogue entre les territoires palestiniens et l'Algérie qui se joue dans votre exposition. Baya, une héroïne algérienne de l'art moderne. Cette expo, elle a migré de l'Institut du Monde Arabe à la Vieille Charité à Marseille jusqu'au 24 septembre.
بنت الشلبي